Nous vous mettons maintenant en liaison avec la cathédrale Saint-Pierre à Genève afin de vous permettre de participer à un service de prière pour la paix et la justice célébré à l'occasion de la mort du docteur Martin Luther King. Présentation et commentaires du pasteur Gilles Hieron.
Saint-Pierre à Genève, qu'une foule immense, inhabituelle, mais disciplinée et recueillie, vient d'envahir jusqu'à ses derniers recoins, nous vous saluons tous, frères et sœurs, au moment où vous nous rejoignez ici, par l'antenne, pour participer avec nous à ce culte d'intercession pour la paix et la justice. Dans ce monde divisé, écartelé, déchiré, où nous sommes appelés à vivre, il est très rare qu'un événement soit ressenti par la quasi-totalité des êtres conscients d'une façon unanime. C'est pourtant le cas depuis que le monde entier, chrétien ou non, a été secoué par la mort du pasteur Martin Luther King. Au soir de ce dimanche 7 avril, décrété jour de deuil national aux États-Unis, ce n'est pourtant pas un service qui va être célébré à la mémoire d'un homme, ni un culte qui va lui être rendu pour le repos de son âme. Martin Luther King a terminé son pèlerinage terrestre. Sa destinée est entre les mains de Dieu, mais son témoignage, qui est un appel, demeure. Nous, qui nous sentons concernés par sa mort, saurons-nous entendre cet appel à poursuivre sa tâche de paix, de justice et d'amour pour tous les hommes. De ce haut lieu de la foi qu'est la cathédrale Saint-Pierre, répondant à l'invitation du conseil œcuménique des Églises et de l'Église nationale protestante de Genève, des hommes et des femmes de toute race, de toute nationalité et de toute confession sont maintenant réunis pour user de leur seule arme pacifique commune, la prière d'intercession. Quoi que vous fassiez en ce moment et où que vous soyez, vous êtes invités, toutes affaires cessantes, à nous rejoindre en cette heure pour la partager avec nous et pour former ainsi une immense force de prière et d'amour. Le pasteur Edmond Sauty, vice-président de la Compagnie des pasteurs de Genève.
Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever. Notre aide et notre espérance soient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 23 du psautier romain, la première et la troisième strophe.
C'est le pasteur Perry Williams de l'église américaine de Genève qui est monté en chaire.
Écoutez maintenant la lecture de la parole de Dieu dans le 8e chapitre du livre de Jérémie et dans le 11e chapitre de l'Évangile selon Luc. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, et leur champ à ceux qui les déposséderont, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. On tombe de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui l'enferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'a-t-il point de baume en Galade? N'a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut échevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
La prière qui va suivre va être dirigée par le pasteur Raymond Rédallier, secrétaire général associé de l'Église nationale protestante de Genève, et par Monseigneur Paul Bouvier, directeur de Caritas, au nom de l'Église catholique romaine.
Prions de toutes nos forces. Supplions le Seigneur. Nous lui confions d'un même élan, d'un même cœur, dans un même immense bouleversement, Madame Martin Perkin, ses quatre enfants. Nous nous associons à ses collègues dans le ministère, pour que dans leur souffrance, ils continuent cependant sur la route tracée, pour que leur force soit renouvelée sur le chemin de la non-violence et de la paix. Prions le Seigneur dans le silence. Seigneur, aie pitié. Prions pour tant d'hommes qui, de par le monde, ont perdu avec Martin Luther King une espérance, une inspiration pour leur vie. Prions pour les hommes noirs, compagnons de lutte du pasteur américain. Prions pour ceux qui s'inspirent de lui et luttent de la même manière que lui, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud, au Vietnam, en Amérique du Sud. Prions dans le silence le Seigneur. Seigneur, écoute. Seigneur, aie pitié de nous. Comment ne pas prier maintenant pour le grand peuple américain des États-Unis qui connaît aujourd'hui une des heures les plus difficiles de son histoire. Pour son président dont la tâche est écrasante, promouvoir la paix au Vietnam, apaiser les esprits et à l'aide du Congrès qui se réunira lundi, prendre les mesures qui s'imposent par l'adoption du projet de la loi pour l'intégration et la totale égalité des droits. Ô Seigneur, donnez aux guides du peuple auquel nous pensons maintenant la force et le courage dont il a besoin. Faites que sa voix soit entendue pour que la violence cesse et que la difficile, très difficile question raciale trouve une solution. Faites, Seigneur, que tous les hommes, de quelque côté qu'ils soient, entendent la voix de la sagesse, et celle plus profonde encore et plus efficace qui s'appelle l'amour. Faites qu'un peu de cet amour sans lequel il ne peut y avoir d'entente entre les hommes descende sur le peuple des États-Unis. Prions le Seigneur et qu'il nous entende. Prions aussi pour que la violence n'accable pas tous les Blancs qui, aux États-Unis, ont essayé de se faire le porte-parole des justes revendications des hommes noirs. Puissent-ils, malgré le déferlement de la brutalité, ne pas regarder en arrière, mais voir plus loin que l'immédiat et ne pas oublier ce que leur premier engagement en faveur de la cause des Noirs avait de juste, de chrétien. Faites, Seigneur, qu'ils restent fidèles à l'idéal, même lorsque celui-ci semble sombrer dans la violence. Cela, Seigneur, vous seul pouvez le susciter au cœur des hommes. Nous t'en prions, Seigneur, écoute et prends pitié. Enfin, prions encore pour que les hommes continuent d'entendre la voix de celui qui, maintenant, s'est tu. L'humanité avait dans la personne de Martin Luther King un prophète de l'amour, un homme dont le désir était de vaincre l'injustice par l'amour.
Ne disait-il pas, on ne peut vaincre la haine par la haine. Seul l'amour est sûr de l'emporter. Faites, Seigneur, que cette voix continue à nous atteindre, à nous parler, et que les chrétiens l'entendent encore, parce qu'elle est l'écho de la voix de celui qui a parlé sur le mont des béatitudes, lorsqu'il a dit que les pacifiques et les doux posséderont la terre. Seigneur, écoute et prends pitié.
Amen.
C'est maintenant le pasteur Philippe Potter de la Jamaïque, secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Églises, qui est monté en chaire pour le message qu'il va prononcer ce soir.
Martin Luther King fut un homme courageux, généreux, extrêmement simple. Ainsi le décrivent tous les commentateurs ce week-end. On ne dit pas toujours l'essentiel. C'est qu'il voulait être tout simplement disciple du Christ. Disciple qui essayait de suivre son maître jusqu'au bout. Voilà le secret de sa vie. Avant d'écouter sa voix et de nous consacrer à nouveau au Seigneur, il nous faut considérer les conséquences que Martin Luther King a tirées de sa vie de disciple de Christ. Quelle fut pour lui la discipline de sa vie, c'est-à-dire le chemin qu'il a suivi en tant que disciple? En évoquant les motivations et les événements de sa vie, 5 points s'imposent. Premièrement, il a découvert son prochain, l'homme. Tout homme fait à l'image de Dieu, et spécialement celui qui est privé de sa dignité d'homme et des biens de la communauté, l'homme, non seulement le noir. Il a découvert ce fait quand il travaillait comme étudiant dans une usine à Atlanta, sa ville natale, où il a rencontré des ouvriers blancs et noirs, exploités par des industriels blancs. Il a manifesté son souci pour l'homme, pour tous les hommes, quand il a condamné la guerre brutale du Vietnam. Il aimait citer les paroles du prédicateur poète anglais John Donne : « La mort de tout homme me diminue, car je suis impliqué dans la vie de tout être humain. » Deuxièmement, quand le temps est arrivé, il a répondu à l'appel d'assumer la croix et de suivre le Christ. C'était à Montgomery en 1955, lors du boycottage des autobus. Les Noirs lui demandèrent d'être les porte-parole. Il n'a pas hésité et il n'a jamais regardé en arrière. Comme il disait souvent, « Il me faut aller de l'avant. I must go on. » Troisièmement, Martin Luther King a compris que l'amour du prochain et la vie de disciple du Christ exigent une attitude et une politique de non-violence. C'était le principe clé de sa vie. Il a préféré vivre la folie du Christ, calomnié et crucifié, plutôt que la sagesse du monde, calomniante et crucifiant. Voilà l'essence de sa vie en Christ. La détermination de travailler pour le bien-être de l'homme créé à l'image de Dieu par la force de l'amour, plutôt que par la force. Quatrièmement, il vivait et il luttait en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour tous les hommes. Il n'a jamais perdu cette confiance en la puissance de Dieu d'établir la justice et la paix parmi les hommes sur la terre. Il ne désespérait pas, jamais. C'était là le secret de sa force, de sa persévérance et de son courage joyeux. À la veille de sa mort, il a proclamé à une foule : « Je ne crains rien. Je vais simplement faire la volonté de Dieu. Il m'a été permis d'aller au sommet de la montagne et de voir la terre promise. Je ne m'inquiète de rien. Mes yeux ont vu la gloire de l'avènement du Seigneur. » Cinquièmement, celui qui suivait le Christ à tous égards et gardait cette confiance dans le triomphe de l'amour et la justice de Dieu a déployé de l'audace, de l'insistance, même de l'impudence en poursuivant sa vision et ses convictions. Il attaquait toute complaisance, toute hypocrisie, toute tentative de fermer la porte devant nos responsabilités les uns envers les autres. C'est pourquoi le pasteur King a enregistré un sermon lors de la conférence sur l'Église et la société en 1966 sur ce texte de Saint-Luc, chapitre 11, versets 8 à 11. Nous sommes appelés à être comme l'ami insistant, importun, impudent, ennuyeux, afin de partager le pain les uns avec les autres, afin que nous devenions tous copains. Il est donc approprié que nous célébrions la vie de Martin Luther King ce soir, dimanche des Rameaux. King nous dirige vers celui qui s'est risqué pour tous les hommes, qui a été crucifié par les hommes pieux, les hommes respectables, les hommes d'État qui se sont lavé les mains de leurs responsabilités. Il y a un nigro spirituel qui nous rappelle le jour des Rameaux et aussi ce chevalier de la foi, Martin Luther King. Il s'appelle « Ride on, King Jesus, no man can hinder him. Poursuis ta course, Jésus roi, personne ne peut t'arrêter. » Martin Luther King disait « Il me faut aller de l'avant. I must go on. » Mes chers frères, nous sommes aussi appelés à aller de l'avant, à suivre cette même voie de la croix victorieuse, résolument et joyeusement. Amen. Maintenant, écoutons le texte, une partie du texte prononcé par le pasteur Martin Luther King au culte de la conférence Église et Société. La traduction est au verset de cette feuille.
Cette commande-là, il est significatif. and that is the conscience in our hour when it is difficult to be faithful. The most inspiring word that the church may speak is that no midnight long remains. The weary traveler by midnight lamp for bread is really seeking the dawn. Our eternal message of hope is that morning will surely come. That is the magnificent passage in the Psalms which says, weeping may tarry for a night, but joy cometh in the morning. So the hope facing all of us is that morning will come. Our slave foreparents in America realized this when they thought of the darkness and the difficulties of life. And all of the injustices surrounding their days, they used to sing the spiritual, which says, nobody knows the troubles I see, nobody knows but Jesus. But then they would think of the fact that slavery wouldn't last always. They would think of the fact that morning would come, and they would start singing another song, I'm so glad that trouble don't last always. Centuries ago, the great prophet Jeremiah raised the question, is there no bomb in Gilead? Is there no position there? He raised this question because he noticed the inequities and the injustices of life. He noticed good people often suffering and evil people prospering. So the question came out, is there no bomb in Gilead? Is there no position there? Centuries later, slave foreparents came along. And they did an amazing thing. They too saw injustice. They had nothing to look forward to morning after morning but the sizzling heat. The rawhide quivered over the long rows of cotton. And they did something that gave them zest for living. They took Jeremiah's question mark and straightened it into an exclamation point. And they could sing in a beautiful spiritual, there is a balm in Gilead to make the wounded whole. That is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. They talked about that in discouraging experiences, and they could say, sometimes I feel discouraged and feel my works in vain. But then the Holy Spirit revives my soul again. There is a balm in Gilead. This is our faith, this is our hope. This is the thing that must keep us going through all of these difficult days. The dawn will come. Disappointment, sorrow, and despair are born at midnight. But morning follows. This faith adjourns the counsels of despair and brings new light into the dark chambers of pessimism. That is something in this universe which justifies Carlyle and saying no life can live forever. That is something in the universe which justifies William Cullen Bryant in saying truth must ever rise again. That is something in the vast structure of the cosmos which justifies James Russell Lowell in saying truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future, and behind the dim unknown standeth God within the shadow, keeping watch above his own. This is the faith, this is the hope that can guide us through the darkest midnight. With this faith, we will be able to hew out of the mounting of despair a stone of hope and bring into being that brighter day when all of God's children will live together as brothers, and every man will respect the dignity and the worth of human personality.
Thank you.
La foule rassemblée ici ce soir avait donc sous les yeux la traduction de ce message de Martin Luther King que nous venons d'écouter comme un ultime témoignage. Nous n'avons pas voulu troubler cette voix que nous n'entendrons plus par un doublage en français. Essayons donc maintenant de dégager la pensée du pasteur King pour ceux qui n'ont pas pu comprendre son message. Il a évoqué minuit, l'heure troublante, mais qui passe et qui annonce le matin que notre foi attend. C'est l'image du peuple noir, opprimé, réduit à l'esclavage, et qui garde pourtant l'espérance de la délivrance, de la liberté. Jérémie avait en son temps déjà posé cette question. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Et cela à cause des inégalités et des injustices de la vie, à cause des braves soumis à la souffrance, alors que les méchants prospèrent. Mais de cette question du prophète, les ancêtres du pasteur King en ont fait une certitude qu'ils ont chantée. Parfois je suis découragé, disent-ils, je crois mon labeur vain, mais là l'Esprit Saint vient souffler la vie dans mon cœur. La tristesse, le désespoir et la souffrance sont donc nés au milieu de la nuit, mais il y a un matin. La foi repousse les suggestions du désespoir et fait luire une nouvelle lumière dans les sombres cachots du pessimisme. Et le pasteur King a conclu son message en disant « Telle est la foi, telle est l'espérance qui peuvent nous conduire à travers les nuits les plus sombres. Et dans cette foi, nous pourrons extraire de la montagne du désespoir une pierre d'espérance et faire naître ce jour plus éclatant où tous les enfants de Dieu vivront ensemble comme des frères et où tout homme respectera la dignité et la valeur de la personnalité humaine. »
La prière d'intercession qui va suivre comprendra 6 parties. Après chacune de ces parties, les officiants diront...
C'est le pasteur Jean-Pierre Jorneau, secrétaire général de l'Église nationale protestante.
Et nous répondrons ensemble,
qui va s'exprimer en dirigeant cette prière communément avec le docteur Blake, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises.
C'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et nous dit que le matin vient. C'est parce qu'il y a une espérance pour les chrétiens que nous osons nous tourner vers toi, Seigneur. T'importuner dans notre peine et te prier pour la paix du monde. Nous voulons être des porteurs de paix et souvent nous n'avons même pas la paix en nous. Nous voulons être des hommes de justice et nous pactisons avec l'injustice. Pourtant, Seigneur, à cause de tes promesses, nous demandons avec insistance la paix et la justice pour tous les hommes. Seigneur, exauce-nous et prends-nous à ton service. Nous te prions, Seigneur, pour que soient rétablies de justes relations entre les races aux États-Unis d'abord. Et nous mesurons peut-être mal les souffrances qu'apportent ces divisions. Nous te prions aussi pour les autres points du monde où race, idéologie, peuple s'opposent violemment, tout spécialement pour le Nigeria, le Moyen-Orient, le Vietnam. Nous confions à ton amour ceux qui sont persécutés et ne peuvent souvent que souffrir en silence. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les étrangers qui vivent parmi nous, pour ceux que nous avons de la peine à accueillir, à à comprendre et à aimer. Aide-nous à voir en eux le Christ qui nous rencontre. Seigneur, exauce-nous et prends-nous à ton service.
Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui, dans les différents pays, ont accepté des responsabilités politiques. Dans l'heure d'être clairvoyants, sincères, dévoués au bien public, que la mort de Martin Luther King soit, pour eux comme pour nous, un signe actuel de l'urgence qu'il y a à faire avancer la paix. Nous te prions pour les responsables des Nations Unies, pour Utant, pour ceux qui maintiennent le contact entre les peuples de la terre. Nous te prions pour les défenseurs du pouvoir noir, Carmichael, Rap Brown, pour les autorités civiles des États-Unis face à la crise qui risque d'amener la mort de celui qui avait voulu être un homme de paix, un non-violent. Mais nous, nos mains sont vides et notre volonté est faible devant les exigences d'une vie civique efficace. Viens en aide, Seigneur, à notre faiblesse. Pardonne nos lâchetés et nos compromissions. Seigneur, exauce-nous et prends-nous à ton service. Nous te prions, Dieu juste, pour tout ce à qui tu as confié la charge de rendre la justice ou d'appliquer les lois. Aide-les à ne pas faire de différence entre les pauvres et les riches, les faibles et les forts, mais à rendre à chacun selon son droit, sans tenir compte non plus des différences de race. Assiste-les quand ils appliquent les lois pour le bien de tous. Nous te confions ainsi les juges, les magistrats, les policiers et aussi l'armée. Donne-leur droiture, patience et esprit de service. Sois aussi spécialement avec ceux qui œuvrent pour la paix en prenant une attitude non-violente. Demeure, Seigneur, avec les hommes qui ont pour mission d'informer le monde, journalistes, travailleurs de la radio et de la télévision. Fais d'eux aussi des porteurs de paix et des messagers de justice. Seigneur, exauce-nous.
Et prends-nous à ton service. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, corps du Christ, pour toute l'Église, où qu'elle se situe dans le monde. Triomphe de ses divisions. Augmente son audace. Inspire-lui de rendre partout un témoignage de paix. Nous te prions pour les chrétiens de toute confession qui veulent être un reflet du Christ, prince de la paix au milieu des hommes. Donne-nous de reconnaître dans leur message et dans leur vie ce qui vient de toi. Nous te confions spécialement ceux qui souffrent pour que la paix et la justice progressent dans le monde. Que ton Église, que chacun d'entre nous, soit vraiment aujourd'hui un signe de réconciliation. Seigneur, exauce-nous et prends-nous à ton service.
Nous te prions, Seigneur, pour nos églises locales. Elles mettent
à l'œuvre des hommes et des femmes qui ont le souci de bien faire, mais n'ont pas toujours conscience de ce que tu attends d'eux pour ton œuvre de paix. Donne-leur, donne-nous, de mesurer combien l'action personnelle d'amour du prochain est essentielle à tes yeux. Chaque fois que des hommes souffrent ou sont persécutés à cause de nous ou malgré nous, inspire-nous d'accomplir les actes de justice, de conciliation et de paix nécessaires. Nous voulons être des chrétiens serviteurs à l'exemple du Christ. Seigneur, exauce-nous.
Et prends-nous à ton service.
Amen.
Amen.
C'est maintenant le pasteur Sauty, vice-président de la Compagnie des pasteurs de Genève, qui
Chantons
va diriger
notre
la fin de ce service.
Dans le Dieu de vie et de paix, au numéro 208 du psautier romain, dans ces trois strophes, levons-nous. D'un même cœur et d'une même voix,
Disons maintenant la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. En sortant, n'oubliez pas ceux qui ont besoin de votre appui et recevez la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Garde tous les hommes en Jésus-Christ. Allez en paix. Que le Dieu de paix soit avec vous et fasse de chacun de vous des ouvriers de paix dans le Seigneur. Amen.
Vous venez de participer et nous vous remercions de l'avoir fait. Au culte d'intercession pour la paix et la justice, célébré à la cathédrale Saint-Pierre à l'occasion de la mort du pasteur Martin Luther King. C'est le professeur Pierre Segond qui était à l'orgue et qui achève maintenant ce service. Nous vous rappelons que les officiants étaient le pasteur Edmond Sauty, vice-président de la Compagnie des pasteurs de Genève, le révérend Perry Williams, pasteur de l'Église américaine de Genève, le pasteur Raymond Rédalier, secrétaire général associé de l'Église nationale protestante de Genève, Monseigneur Paul Bouvier, directeur de Caritas à Genève, qui a parlé au nom de l'Église catholique romaine, le révérend Philippe Potter, secrétaire général adjoint du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Jean-Pierre Jorneau, secrétaire général de l'Église nationale protestante de Genève, et le docteur Eugene Carson Blake, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. Et enfin, vous avez entendu la voix du docteur Martin Luther King, telle qu'elle avait retenti ici même le 17 juillet 1966. Son témoignage vivant a cessé et le nôtre continue. Que Dieu nous soit en aide. Ici la cathédrale Saint-Pierre à Genève, à vous le studio.